Soyez les bienvenus, Cop Gun, votre rendez-vous tous les lundis consacré à l'Olympique Lyonnais avec une nouvelle défaite hier soir contre Lille à la maison. On va évidemment revenir sur cette actualité avec Edouard G. Bonsoir Edouard.
Bonsoir Elodie, bonsoir
Norman
à tous.
Norman Derderian et Charles Di Folco sont avec nous également cette semaine. Bonsoir messieurs.
Bonsoir Elodie, bonsoir tout le monde.
On va revenir sur ce match bien sûr, mais d'abord c'est l'image de cette rencontre, celle qu'on a voulu en retenir, évidemment l'hommage hier soir à Gérard Collomb qui est décédé ce week-end à l'âge de 76 ans, l'ancien maire de Lyon pendant près de 19 ans. Reposez en paix monsieur Collomb, monsieur le maire, c'était le message des Bad Gones, parce que Gérard Collomb et l'OL c'était aussi une grande histoire d'amour. Edouard, on se souvient tous de ces moments de fête parce que ce n'est peut-être pas une coïncidence, l'Olympique Lyonnais a commencé à gagner l'année où Gérard Collomb est devenu maire de Lyon en 2001.
Oui, je me rappelle pour la victoire en la Coupe de la Ligue, la première fois qu'on va sur le balcon, donc en mai 2001, il venait d'être élu en mars. Il nous a dit « Vous reviendrez assez régulièrement ». Alors je ne sais plus s'il nous avait dit tous les ans, mais on nous avait assez régulièrement. Et finalement, on avait pris un abonnement parce qu'il y avait eu cette Coupe de la Ligue, 7 titres de suite avec le doublé Coupe de France. Voilà, son premier passage à la mairie, bah, c'est soldé à chaque fois par un titre à la fin d'année. Et c'est toujours des moments sympas. Et puis, c'est des moments où il nous voilà, gratifiait parce qu'il était, voilà, un moment de festif. On avait quelques petites confidences. C'était toujours très sympa, toujours cette bienveillance. Et puis, on retient tout ce qu'il a fait pour les clubs sportifs, l'OL en particulier, bien bataillé pour que le groupe Amas Stadium puisse, avec Jean-Michel Aulas, sortir de terre et puis après, entre guillemets, mettre le groupe à Matmut Gerland pour le loup.
On montre ces images au groupe Amas Stadium, mais que ce soit l'OL féminin, l'ASVEL féminin, le loup, c'est tout le monde sportif lyonnais qui a rendu hommage à Jean-Michel Aulas, à Gérard Collomb ce week-end, et Jean-Michel Aulas aussi. Justement, il nous a répondu hier, l'ancien président de l'Olympique Lyonnais, qui était très ami avec Gérard Collomb. Écoutez-le, c'est Hugo Frances qui a recueilli son témoignage.
La coïncidence, c'est qu'il est arrivé maire de Lyon en mars 2001, et ça a coïncidé avec le début des grandes victoires de l'Olympique Lyonnais, donc c'est la Coupe de la Ligue. Et lui disait toujours, j'ai porté chance à l'Olympique Lyonnais. Et on a donc avec cet Olympique Lyonnais des souvenirs marquants, permanents. Bien sûr au stade il ne manquait pratiquement jamais un match, mais aussi en déplacement, il est venu souvent avec nous en déplacement de Coupe d'Europe. Il était presque un dirigeant en fait de l'OL de par sa proximité avec les autres et puis sa connaissance très 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 interne de ce qu'était devenu l'Olympique Lyonnais.
Il était presque un dirigeant de l'OL. C'est beau ce que dit Jean-Michel Aulas sur Gérard Collomb. Norman, pour vous, Gérard Collomb, il représentait quoi ?
Beaucoup de choses. Beaucoup de choses ont été dites, mais c'est vrai que c'est une figure emblématique. Et puis, Jean-Michel Aulas parlait de coïncidence. Moi, je crois pas beaucoup aux coïncidences. Donc, c'est vrai qu'il a eu énormément d'apports. Et j'ai envie de dire... comme par hasard, ça va beaucoup moins bien en ce moment. Et voilà, de son côté, il y a une fin d'étape. Maintenant, c'est ce qu'il a fait pour le club, pour la ville et pour les clubs de Lyon. Ça sera sûrement mesurable dans le futur, parce que on voit aussi tout ce qui a été mis en place et les structures sportives en sont des preuves. Donc touché, marqué.
Pour vous, Charles, supporter de l'Olympique Lyonnais, Gérard Collomb aussi, c'était un quelqu'un d'important qui était lié aussi à l'histoire du club.
C'est quelqu'un d'important, oui, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, il a coïncidé avec les titres. Et puis après, si on va plus globalement dans la chose, depuis hier, même avant-hier, on n'entend que du bien de lui. C'est quelqu'un qui avait un parti politique, mais de son parti jusqu'à l'autre côté, il n'y a pas une personne qui a dit du mal de lui. Et aujourd'hui, les gens retiennent ce qu'il a fait pour la ville en particulier. Et il y a beaucoup, beaucoup de bien qui en ressort. Donc ouais, c'est une grosse perte pour la ville et puis pour les clubs sportifs aussi.
Ouais. Ouais, moi, je retiens aussi qu'il a fait briller l'agglomération à travers le sport, comme quoi on peut le faire, ça. Et je me rappelle le déplacement à Barcelone ou à Munich, et il parlait des régions. Voilà, je veux faire rayonner Lyon à travers ça. Et puis il parlait toujours du gâteau sportif. le gâteau sportif à Lyon. Voilà, il y allait peut-être le rugby qui allait venir, le basket. Non, non, je veux faire grossir ce gâteau. Il y en aura pour tout le monde. On a une pensée quand même pour lui. C'était un autre GG, comme on disait au niveau des suiveurs du foot.
Et l'amoureux de sport, l'amoureux de l'Olympique lyonnais qui l'était, souffrait évidemment de voir les performances de l'OL ces derniers mois. Et encore hier soir, la victoire à Rennes n'a finalement rien changé. On y avait cru. L'OL concède sa 7e défaite de la saison face à des Lillois, 4e, mais privé pourtant de 3 joueurs cadres. Hein. Hier soir au Groupama Stadium, les Lyonnais ont sombré. 27e minute de jeu, c'est Jonathan David qui a ouvert le score. À la 32e, Enrique dégage dans la surface sur Thiago Santos. Le Lillois frappe, ça fait 2-0 pour Lille. Les changements de Fabio Grosso en seconde période ne vont rien changer. L'OL n'a plus gagné à domicile depuis 6 mois. Reste bon dernier de la Ligue 1. On écoute les réactions d'après-match à votre micro, Edouard.
On a montré des choses positives et après on montre des faiblesses très importantes. Et bien sûr, on est dernier et on ne représente pas pour le moment l'histoire de cette club. On est dans cette situation, il faut connaître qu'on y est et on en sortira avec beaucoup de patience et beaucoup de travail. Mais en sachant qu'il faudra un grand esprit pour en sortir.
C'est compliqué, surtout après ce genre de match où on manque un peu de réalisme devant les cages. Il va falloir casser cette dynamique. Au plus vite en fait. On va falloir vraiment tout donner individuellement, c'est du caractère ou non, il va falloir qu'on donne, qu'on apporte au collectif tout simplement et on verra.
On l'a déjà dit Norman dans cette émission malheureusement ces dernières semaines que l'OL touchait le fond. Et là, on est où on creuse encore le fond et encore, on peut encore creuser.
Bah on pensait l'avoir touché, mais vu ce qui s'est passé hier, apparemment non. Là, Skelly Alvaro parle de dynamique. Une dynamique, elle a été cassée puisqu'il y a la première victoire. Moi, je suis effaré par la situation, par les mots du coach, par comment ça se passe sur le coaching, par le fait qu'il y ait 3 systèmes utilisés. On est dans une situation qui est dramatique et on le répète chaque semaine, mais aussi positif peut-on, je ne pense pas qu'il y ait d'issue positive qui puisse arriver s'il n'y a pas de chamboulement. C'est de l'inquiétude qu'il faut partager et pas du temps et de la patience parce qu'on est, dans un cauchemar qui continue et qui s'empire.
On va détailler tous les points que vous évoquez, évidemment, Norvan, mais d'abord, j'aimerais qu'on fasse un tour de table global. L'inquiétude, vous la partagez, Charles, ce soir ?
Ouais, je la partage clairement. J'étais plutôt optimiste jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Là, ce qui me rend vraiment de plus en plus pessimiste, c'est aussi ce que j'ai appris dans la presse ce matin, que le club veut vendre des joueurs cadres, Tolisso, Lacazette, sportivement.
Edouard nous l'avait déjà dit il y a quelques temps.
C'est pas tout à fait comme ça, mais voilà, on vous l'avait dit.
Qui pourrait partir, on va y revenir.
Et surtout dans le sens où ils disent qu'ils veulent les vendre économiquement. Donc ce qui veut dire, si c'est économique, on va perdre des joueurs de talent. Mais ça veut aussi dire que peut-être, on ne pourra pas se renforcer à cause de la DNCG aussi.
Edouard va peut-être parler, on reviendra après sur le match, mais Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso, ce sont des cas un peu particuliers. Ce n'est pas forcément économique.
C'est non, il y a un problème, c'est qu'à un moment aussi. Donné, il y a des propositions, je l'ai dit ici, notamment le Los Angeles Galaxy, qui a proposé, des émissaires sont venus à Lyon, je crois qu'on avait parlé il y a 3 semaines, qui sont venus à Lyon, qui lui ont proposé fatalement... Alors c'est moins l'argent que la destination et puis un championnat qui peut peut-être faire rêver à 33 ans, surtout quand on est dans la situation au niveau de l'OL et partager entre le fait d'aider quand même son club, de ne pas partir alors que le club est en train de couler ou de se dire bon ben voilà on va être un petit peu poussé dehors. Voilà, on est entre les deux, mais moi clairement dans ma tête je m'imagine que Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso ne seraient pas là, ne seront pas là au mois de janvier.
Vous venez de dire le club est en train de couler, c'est vraiment le sentiment que vous avez après cette nouvelle défaite hier soir à
Si je vous disais le contraire, ça veut dire que je dirais l'inverse de tout ce que je dis depuis 2 mois. Je vous dis quoi ? Je vous dis ce club va être en Ligue 2 l'année prochaine. Malheureusement, ça ne me fait pas plaisir de le dire. J'ai pas de boule de cristal, j'ai pas la sécurité, bien évidemment, de cette info. Mais quand on sent tout ce qui se passe, quand on voit tout ce qu'il y a ou ce qu'il n'y a pas, moi, je suis surpris que tout le monde découvre aujourd'hui que l'OL puisse aller en Ligue 2. Le président, le premier qui parlait, John Textor, d'une question comique auprès d'une consoeur il y a un mois après la défaite face à Clermont. Mais moi, j'étais là, je me dis, mais c'est affolant d'avoir autant de déni. Et tout le monde, je veux bien qu'on ait beaucoup d'optimisme, etc. Mais il faut voir les fondamentaux de cette équipe avec cet encéphalogramme plat. Et on va parler aussi après, j'imagine, du salon du bricolage au niveau de l'entraîneur.
Eh bien, justement, on y va sur l'entraîneur Fabio Grosso. C'est vrai que ça fait quelques semaines qu'on en parle, que je vous demande si c'est pas inquiétant de voir un entraîneur qui n'a toujours pas d'équipe type. Hier soir, il a été encore à côté, Norvan, de son 11 de départ. Un 4-3-3, milieu avec Maxence Cacré, Skelly Averro et Diawara. Une attaque avec Alexandre Lacazette, Tino Kadewere, Ernest Nouama. Encore une fois, un 11 de départ, trois changements faits dès la mi-temps.
Ouais, donc c'est un aveu d'échec. Ça arrive de temps en temps et c'est la remise en question, elle est importante. Mais quand il y a le chiffre 3 qui est positionné sur le nombre de systèmes utilisés dans la rencontre, c'est impossible, c'est problématique. En plus, sans carton rouge, donc voilà, sans blessure, il n'y a pas de faits de jeu qui sont marquants. Et puis, on a l'impression d'avoir une abysse entre ce que lui veut et ce qui se passe, ce que les joueurs produisent. Même Maxence Cacré, qu'on essaye de... à chaque fois de ressortir positivement parce que c'est le cas depuis quelques saisons.
Le fond.
Complètement. Mmh. Méconnaissable. Voilà, on a des joueurs qui sont alignés au milieu de terrain où ça a toujours été la force de l'OL depuis des décennies, et qui sont quelconques, sans manquer de respect. Et puis le fait de sortir Alexandre Lacazette à la mi-temps, alors qu'on nous annonce quelques temps avant que c'est dur de le sortir, donc c'est pour ça qu'il démarre pas, etc. C'est incompréhensible. Et je vois pas d'issue positive puisque on reste dans des schémas qui sont très compliqués.
7 matchs, 7 compositions différentes, donc ça, il peut y avoir, mais quand même. Des groupes de 23 à 25 joueurs convoqués, on en met 20 sur la feuille de match. Jamais de composition identique, 2 fois des changements comme hier, 3 fois 3 joueurs à la mi-temps. 21 titulaires différents en 7 matchs, c'est
pourtant,
incroyable.
Avant le match vendredi en conférence de presse, j'ai eu le sentiment que Fabio Grosso minimisait un petit peu ses changements d'équipe, le fait qu'il n'avait pas encore d'équipe type.
Oui, alors en fait, on a l'impression, Norvan, toi qui es coach, qu'il est dans de l'expérimentation, je teste un petit peu tous les joueurs.
Ouais, on est en prépa.
On est en prépa.
On est en prépa,
voilà.
Alors qu'il y a une urgence.
Alors qu'il y a une urgence de points, quoi, en fait. Quand il dit qu'il faut que les joueurs se mettent en mode maintien. Hier, on a essayé en conférence de presse, on voit bien qu'il ne veut pas répondre, parce que ce n'est pas un problème de langue, bien évidemment. Il renvoie à chaque fois, et il y a un moment donné, il faut partir avec une équipe type, quelque part à la bataille, j'allais dire à la guerre, le mot est trop fort, mais et puis avec des joueurs, même si ça ne va pas d'un match à l'autre. Mais imaginez-vous, hier, un Moreira qui rentre, on l'a vu titulaire il y a 2 mois, il revient, après il y en a qui sont titulaires, ils disparaissent pendant 15 jours. Et je pense, je le sais, les joueurs sont paumés. Ils savent plus, il n'y a plus de repères.
Si on insiste un petit peu, je me permets de le faire, et c'est pas mon genre, mais il y a des choix qui sont réalisés, qui ne sont pas en concordance avec ce qui se passe normalement. Donc voilà, c'est inquiétant.
Charles.
Moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est que sur le 11 titulaire de la saison dernière, quand on finit 3e sur la phase retour, sur le 11 titulaire, on a encore 9 joueurs qui sont là aujourd'hui. Il y a Barcola qui est parti, qui a été remplacé. Il y a Loukeba qui est parti, qui a été remplacé. Tu l'as dit, pourquoi on ne s'appuie pas sur les 9 joueurs? Ça marche ou ça marche pas? T'as Tagliafico, t'as Lovren, t'as Mata, t'as le milieu Cacré, Tolisso. Devant, tu peux mettre une ligne de 3 et Lacazette. J'aimerais qu'il puisse s'appuyer. Il fait de l'expérimentation, on l'a dit, mais fais ton expérimentation sur ce qui a marché l'an dernier. On a encore 9 joueurs sur les 11 qui sont encore à Lyon maintenant. Il y en a combien? 4, 5 qui sont titulaires sur ces 9? C'est trop peu.
Et le reste, c'est des... expérimenté, pardon, après 7 matchs, c'est quand même improbable quand on est en Ligue 1 qu'on est l'Olympique Lyonnais, non, Norvan?
Et qu'on est dernier.
Ouais. Et qu'on est dernier.
Parce qu'on rejoint ce qu'Edouard disait tout à l'heure, il y a la prise de conscience, elle est partielle. Mais quand la direction n'est pas au courant, n'est pas habituée à ce qui se passe, il y a pas de secret.
Direction? Il n'y a pas de direction, voilà. Déjà, en tant que dirigeant, et puis le staff aussi, est un peu jeune. C'est aussi ça, au niveau de Fabio Grosso. C'est des situations qui sont difficiles de reprendre une équipe en
quand on voit, on va même aller plus loin. La tenue que Fabio a hier sur le bord du terrain, hein, pour avoir coaché sur la même journée, la température elle est autour de zéro. On est dans, je me permets de juger aussi, mais on est dans du paraître. Et non, il faut aller à la guerre, il faut s'équiper, il faut être équipé pour. Et c'est pas avec un petit pull qu'on peut creuser des tranchées. Donc c'est inquiétant, c'est inquiétant.
Il n'y a pas cet esprit, vous parlez de creuser des tranchées, de guerrier, il n'y a pas de révolte dans cette équipe aujourd'hui.
Bah moi, j'en trouve pas. Et quand Lyon gagnait des matchs, on va encore parler de l'année dernière et des années d'avant, ils étaient en groupe, tu avais des meutes et tout, qui allaient à l'avant, qui allaient au combat, etc. Là, cette année, tu as un joueur qui perd le ballon, à côté, tu en as trois qui lèvent les bras, ça souffle, etc. Non, il n'y a pas d'esprit. Tu prends le premier but, tu sais que bah, c'est fini. Je n'ai pas vu un match cette année où, quand tu as pris le premier, tu savais que tu allais faire peut-être un match nul. Et non, on l'a plus. C'est fini.
Et on va revenir, en tout cas, pour le moment, regardez, l'OL est dernier. 7 points pris en 12 journées, qui a raté le coche parce qu'une victoire, on passait devant Clermont. C'était déjà ça pour peut-être relancer la machine. Les individualités, on en parle dans un instant, évidemment, avec nos top flops. À tout de suite. Septième défaite cette saison pour l'Olympique Lyonnais, 2-0 hier à la maison face à Lille-OL qui n'a plus gagné à domicile depuis 6 mois. C'est la crise, Edouard le disait, le club est en train de couler. On a parlé de Fabio Grosso, gros flop général, on va le dire, hein, quand même, de ce match hier. Beaucoup de questions qui se posent sur ce jeune entraîneur, sur les individualités. Il y a quand même eu du positif. On va prendre le verre à moitié plein avec, si vous a séduit, messieurs, les tops de ce match. Ernest Nouama d'un côté, Anthony Lopez de l'autre. Norvan, vous défendez Anthony Lopez ce soir?
Oui, parce que c'est un des rares joueurs sur lesquels la fiabilité, elle se pose jamais. Donc, c'est comme si on considère plus les arrêts qui sont réalisés, parce que c'est normal. Mais pour moi, il nous a gardé en vie, entre guillemets, le plus longtemps possible. Et même,
la défaite aurait pu être plus lourde sans
Voilà, ouais, c'est mieux dit. Et maintenant, qu'est-ce qu'il voulait qu'il fasse? Moi, je retiens son image à la fin de la rencontre où il est abattu. J'ai l'impression que chaque rencontre, c'est pareil. Donc voilà, il est esselé. Et puis, je pense que dans la tête, ça doit être très compliqué. Ouais.
Edouard et Ernest Nouama?
Bah, il a tenté, il a brassé, il a créé, il a essayé de renverser un petit peu la table, il a multiplié les initiatives. Au final, il a mordu dans cette partie, il s'est battu pour rien au final, mais j'ai bien aimé qu'il ne baisse pas les bras. À l'image quand même, parce qu'on peut retenir ça quand même, le groupe était bien sur les 25 premières minutes, c'était cohérent, il y avait quand même de la cohérence, il y a quand même du positif. Et la fin, alors peut-être que les Lillois ont arrêté d'appuyer sur l'accélérateur. Et puis il faut quand même dire qu'en face, c'est quand même la quatrième équipe du championnat, c'est pas
oui,
n'importe qui.
Mais qu'il y avait
qui,
des absents quand même.
Mais qu'il y avait des absents. Mais donc voilà, au moins cette équipe, elle a pas baissé les bras à un moment donné. Mm. Et lui, je trouve que c'est un petit peu le symbole de ça.
Qui vous a convaincu, Charles?
Sur les deux, plutôt Nouama. Parce que j'ai trouvé qu'il avait fait un match qui était quand même plutôt correct. Edouard l'a dit, il a été plutôt virevoltant sur le côté, que ce soit à gauche ou à droite. Il tourne un peu avec Adewere aussi. Et c'est vrai qu'il y a quelques occasions en début de deuxième où il a l'origine. Donc sur les deux, plutôt Nouama, ouais, sur les deux.
Avec donc le premier point pour Edouard ce soir, on passe au flop. Un habitué dans la catégorie cette saison, c'est Mama Baldé, Edouard, pour vous. Et Charles, vous avez choisi... Hein, qui on retrouve aussi régulièrement, Sinali Diomandé.
Diomandé battu sur le duel aérien sur le premier but. Il se fait aspirer il y a un jeu en triangle, il se fait aspirer. Donc déjà, je pense qu'il défend très très mal sur le premier. On a vu à 2-0, à 5 minutes, juste avant la mi-temps, il se déchire complètement sur une relance. Ça a failli faire 3-0. Il y a une taupe qui sort et sinon c'est 3 et on n'en parle plus. Et pareil, je l'ai pas senti serein sur tous les duels, sur toutes les relances, même sur les passes. C'était pas serein. Le premier ballon de la deuxième mi-temps, il veut donner à Enrique, ça part en touche directe. Non, ouais.
Edouard, Mama Baldé. On
que
prend
dire.
Un abonnement. Ouais.
Que dire.
On ressort les émissions de la semaine dernière.
On ressort les émissions. Voilà, quand on loupe une tête comme ça à 2 mètres. Incroyable, et puis le face-à-face, alors c'est vrai qu'il s'est bien battu, il essaye de récupérer, mais bon, voilà, limité, joueur niveau plutôt Ligue 2, joueur qui a connu 2 descentes, avec 3, avec Dijon, c'est le recrutement de l'OL.
Et ça va être compliqué de reprendre confiance, parce que public aussi, les supporters l'ont pris un petit peu en grippe, il y a eu...
Le chevalier, soit sympa, laisse marquer Mama Baldé.
Donc ça va être compliqué pour retrouver la confiance si en plus on a un stade derrière contre soi, pardon. Norvan, à qui vous donnez votre point?
Mama Baldé, c'est très compliqué. Voilà. Et quand on voit que c'est ce joueur-là qui remplace Alexandre Lacazette, c'est encore plus compliqué parce que la cohérence, elle aurait pu être un petit peu supérieure dans le choix de l'entraîneur. Maintenant, OK, il y a des efforts, mais ce n'est pas suffisant. Et je pense qu'Edouard a tout dit par rapport au niveau de pratique et à la dynamique.
Et comme Lille, c'est une victoire 2-0 d'Edouard G ce soir. Voilà. Félicitations Edouard. Vous parlez de ce changement incompréhensible, sans vouloir accabler trop non plus Fabio Grosso. Mais ça aussi, ça joue dans le fait de brouiller un peu les esprits des joueurs. Ce qu'on dit depuis tout à l'heure, finalement, que peut-être le message du coach ne passe pas franchement.
Oui, je pense, clairement. Parce que dans leur tête, ils ne savent pas s'ils jouent en pointe, à droite, à gauche. Ça change quatre fois dans le match. Ils savent plus où ils en sont. Et que si on s'en est un qui ne sait pas où il est, les autres à côté, c'est pareil. Et le foot, c'est un sport d'équipe. Donc, au bout d'un moment, ça fait effet boule de neige sur les autres. Et je pense qu'il faut faire un grand ménage, vraiment se poser et vivement la trêve pour que tout le monde se remette la tête à l'endroit.
Le problème, c'est qu'en attendant la trêve, il y a quand même pas mal de matchs à jouer. Ça va s'enchaîner.
Et je ne sais pas si Fabio Grosso va tenir jusqu'à la trêve, pour être très honnête. Hein. Franchement, je ne vois pas comment ça peut... J'ai pas d'informations, mais là, moi, très concrètement... Peut-être qu'on va jouer jusqu'avec lui, jusqu'à Marseille, pour un peu le côté émotion par rapport. Mais après, s'il n'y a pas de points, comment il faut, il y a un moment donné, il va falloir changer des choses. Hein.
C'est le calendrier, on l'a aperçu justement, on va peut-être le détailler. Donc il y a ce déplacement à Lens samedi, ce match à Marseille mercredi qui va être très regardé, évidemment, Edouard. Et puis ensuite Toulouse, Monaco, Nantes. On va arrêter de dire que c'est un calendrier compliqué parce qu'on a 7 points après 12 journées. Tous les matchs sont compliqués, messieurs.
Oui, et puis on reprend l'expression d'Edouard qu'il aime bien utiliser, mais quand on est dernier, ben oui, tout le monde est devant soi. Donc c'est ça, mais malgré tout, il y a des équipes qui sont un peu plus dures à jouer. Lille en faisait partie, je rejoins, il y a des absents. Par contre, on sent une vraie ossature et on sent une équipe qui n'a pas hésité à nous manquer de respect au moment des buts marqués, où il y a une célébration et où le fait que les joueurs ne viennent pas chahuter aussi... Ça peut être dérangeant un petit peu, en tout cas sur le point de vue du coach.
Je crois qu'on n'a pas arrangé la déprime de Greg Cuiron. Hein.
Non, Grégory Cuiron qui ne va pas très bien.
D'autres aussi.
Je crois que
d'autres supporters.
Crois que c'est l'ensemble des supporters, des amoureux de l'Olympique Lyonnais qui ne vont pas très bien. Il va falloir réagir à Lens, ça va être compliqué. Il va y avoir une échéance importante demain après-midi aussi, le passage devant la DNCG qui va aussi conditionner l'éventuel mercato de cet hiver pour l'Olympique Lyonnais. Et on va regarder les autres résultats du week-end. Un peu de sourire quand même avec Fanny Cousin.
L'OL féminin poursuit son sans-faute en championnat. 9e match et 9e victoire hier pour les Lyonnaises. Après leur succès étriqué en Ligue des Champions mercredi, elles ont retrouvé toute leur efficacité sur la pelouse de Guingamp avec 3 buts inscrits dans la première demi-heure de jeu. Avant la pause, l'OL concède son 4e but de la saison et voit les Bretonnes revenir 3 buts à 1. Malgré une grande performance de la gardienne guingampaise, les Fenottes poursuivent leur festival offensif en deuxième période grâce à un doublé d'Ada Egerberg. Avec ce nouveau succès 5 buts à 1, Lyon caracole toujours en tête de la D1. Avec désormais 5 points d'avance sur le Paris FC. En top 14, le Loup se devait de se racheter après 3 défaites consécutives. C'est chose faite, porté par son public. Le club rhodanien a retrouvé le chemin de la victoire face à l'Aviron bayonnais. Plus réaliste et devant à la pause grâce à des essais de Baptiste Couillou et Romain Taoufi-Fenoua, le Loup subit un sérieux trou d'air en deuxième période et encaisse 3 essais en 6 minutes. Les Basques reviennent alors à 5 points, mais les Lyonnais ne paniquent pas. Ils emportent finalement 42-29 grâce à 2 essais de Thibaut Regard dans les dernières minutes. Au classement, le Loup remonte à la 10e place avant de se déplacer c'est à Castres samedi prochain. L'ASVEL aussi est reparti de l'avant. 3 jours après avoir été battu sur le gong par le Bayern Munich en Euroleague, les Villeurbanais ont su se remobiliser sur le parquet de Bourg-en-Bresse. Porté par Maï Scott, les joueurs de Gianmarco Pozzecco prennent les devants dès l'entame du match pour mener 41-33 à la pause. L'expulsion sévère de Geoffrey Lauvergne au début du 3e quart-temps permet aux Bressans de revenir. Un retour de courte durée, les Rodaniens s'imposent finalement 80-74. Avec ce succès, le 3e de rang, l'ASVEL monte sur le podium à la 3e place du classement.
Merci messieurs, on se retrouve la semaine prochaine. Lens OL, c'est le match au programme du week-end. Très bonne soirée.
Sourire.